Gaborio, merci. Vous allez nous parler du jeu. Le jeu qui a une place méconnue dans la maladie d'Alzheimer. Oui, oui, normalement, on doit avoir tout ça. Bah, je vous invite à vous asseoir si vous voulez écouter la suite des interventions. Reynald Gaborio va nous parler de certains jeux qui sont utilisés avec les patients Alzheimer. Vous êtes chercheur en santé, neuropsychologie, co-directeur du MJ Lab à Saint-Étienne avec la Tower Tafel, table magique en réalité. Augmentée, voilà. Absolument. Et donc, on avait une petite vidéo. Est-ce que vous arrivez à la lancer?
Alors avant la vidéo, je vais dire
oui.
Deux, trois, deux
alors pour les personnes
que,
qui
ont été présentes, je vais d'abord
pour parler... les quelques présents, je vous invite à vous asseoir. Je vous invite à vous asseoir, madame, pour écouter notre intervenant.
Donc très rapidement, je vais d'abord présenter les outils numériques qui sont au service des interventions non médicamenteuses. Rappeler ce que sont les interventions non médicamenteuses. Hop, voilà, merci.
Voilà, ça devrait être bon comme ça.
Et ensuite, je vous proposerai en fait de nous focaliser sur un des outils techniques numériques qui est proposé, qui est la Tower Tafel. Je vous la présenterai. Et ensuite, on présentera les effets en fait de cet objet pour s'arrêter à la fin sur certains facteurs, malgré tout, qui sont très importants à prendre en compte lorsqu'on souhaite utiliser des outils techniques numériques. Donc,
Oui, on vient de se présenter, donc je vous laisse vous représenter.
D'accord, donc moi je suis Reynald Gaborio, je suis chercheur en santé et co-directeur du département recherche MJ Lab. Voilà, je vous en prie. Donc on est tous à la recherche de solutions et en complément en fait des traitements pharmacologiques, de plus en plus on propose des activités à côté des traitements qui vont essayer de stimuler soit le sensoriel, soit le moteur, soit le cognitif, soit simplement le lien social. Et ces activités, en fait, aujourd'hui, on essaie de les cadrer, c'est-à-dire de dire, eh bien, très bien, vous souhaitez proposer une activité, mais est-ce que votre activité a réellement des effets, en fait, pour les personnes? Donc aujourd'hui, on a une société scientifique qui s'appelle le NPIS, qui essaie, en fait, de donner un cadre à ces interventions dites non médicamenteuses, et qui déjà, pour commencer, eh bien, propose une définition, puisqu'il faut commencer par là. Donc la définition qu'elle donne d'une intervention non médicamenteuse, il s'agit d'un protocole de prévention santé ou de soins efficaces, personnalisés, non invasifs, puisque ce n'est pas pharmacologique, qui est référencé et encadré par un professionnel de santé. Donc déjà, vous voyez que ce ne sont pas toutes les activités en fait, qui sont proposées qui rentrent dans le cadre des interventions non médicamenteuses. Et aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé, notamment depuis 2011, préconise l'utilisation des interventions non médicamenteuses et un certain nombre de méta-analyses d'études en fait démontrent leur efficacité, même si je vais le rappeler en fait ici, c'est que dans les études concernant les interventions non médicamenteuses, on n'a pas encore trouvé de méthodologie parfaite, donc vous avez toujours en fait un certain nombre de biais, de problèmes dans les études ou en tout cas de limites. Voilà, il faut avoir ça en tête lorsqu'on lit les études. Des outils techniques numériques, eh bien vous en connaissez peut-être un certain nombre déjà, donc des tablettes numériques où l'on propose des activités, notamment souvent cognitives, des robots qui commencent à rentrer dans les établissements. Alors celui-ci n'existe plus, mais d'autres aujourd'hui sont proposés. Vous avez des casques de réalité virtuelle qui permettent eh bien, de voyager ou de proposer certains thèmes, tous en commun, donc ça n'isole pas, l'idée c'est de faire tous et toutes le même voyage, et ensuite on pourra en parler. Vous avez des vélos connectés, vous avez, si vous avez vu, en fait, des coussins qui permettent, grâce à leur vibration, d'apaiser les personnes, ou des outils de réalisation musicale. Mais moi, je vais m'arrêter plus spécifiquement sur la Tower Tafel. Donc Tower Tafel, comme ça a été dit, ça vient du néerlandais, puisque ça vient des Pays-Bas, et ça veut dire « table magique ». Ça a été créé en
Table magique,
en fait. Ça a été créé en 2015 suite à une thèse. Voilà. C'est dans la suite de la thèse qu'un objet comme celui-ci a été créé. La Tovertafel, on dit que c'est un outil de réalité augmentée en deux dimensions. Alors ça peut faire un peu peur, ce terme de réalité augmentée. C'est simplement, en fait, que dans notre réalité, on ajoute des objets virtuels sur lesquels, en fait, on va pouvoir, ou avec lesquels on va pouvoir jouer. Et la Tovertafel est justement l'un de ces outils. Grâce à des projections, nous allons pouvoir proposer des activités interactives qui vont permettre de stimuler, soit sensoriellement, soit d'un point de vue moteur, soit d'un point de vue cognitif, soit simplement le lien social, parce que ça a été dit et redit, c'est extrêmement important. Alors plutôt que d'en parler comme ça et de vous en donner une vague idée, je vous propose de regarder un film qui présente en fait ce qu'est la Tovertafel. Je le lance.
Alors, qui lance le film? Est-ce que c'est... Voilà. Sorte de Scrabble, nous dit madame.
Donc là, on fait de la musique tous ensemble, sans que ce soit cacophonique.
Et ça provoque des sourires en voix.
Ça permet des rencontres, je vais aussi revenir en fait.
Et là, ça fait de la musique, voilà, des créateurs de musique, des compositeurs.
Oui.
Donc c'est du matériel professionnel.
C'est ça, à destination en fait des professionnels. C'est ça, non. Vous voyez, je vais y revenir, on peut tout à fait ajouter des objets en fait, de la vie quotidienne. Jouer au sol, jouer sur table.
Essentiellement en EHPAD.
Essentiellement, oui. C'est un certain coût, oui.
Un certain coût qui rend difficile de l'acheter par des particuliers. Après, il y a des jeux vidéo que les particuliers peuvent acheter. Façon de faire du sport.
Non, il n'y a pas besoin d'internet. On sait que dans les établissements, c'est très compliqué parfois internet. Donc il n'y a pas besoin d'internet.
Merci pour cette présentation.
Ah, pardon. Donc non, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est vraiment un logiciel en fait, qui permet de la projection. Donc qui dit projection veut dire, comme vous l'avez vu, un support. Donc ça peut être une table, ça peut être le sol, ça peut être sur les personnes, ça peut être dans un bac avec un peu d'eau, si on veut travailler la sensorialité. On peut ajouter des nappes plus ou moins rêches, plus ou moins douces. Enfin, on peut travailler vraiment énormément de choses. Et puis, comme je disais, on peut ajouter des ustensiles. Vous avez vu les gens jouer avec une balle, mais avec de vraies raquettes, en fait. On peut taper sur des taupes ou les caresser, selon si, la manière avec laquelle vous voulez jouer, en fait, avec des frites de piscine, par exemple, etc. Donc là aussi, selon là où en sont les personnes, pour certaines personnes, pour l'organisation des gestes, eh bien, il vaut mieux qu'elles jouent avec leurs mains. Pour d'autres, pour les aider, c'est plus facilitant en fait, d'avoir des objets dans les mains. Donc là, on peut tout faire en fait, avec cet objet. Alors, sur les effets de la Tovertafel, je vais être assez rapide, on sait déjà qu'il y avait des études avec toutes les limites méthodologiques dont j'ai parlé, qui montraient en fait les bénéfices qu'on pouvait obtenir grâce à la réalité augmentée.
On a une panne ça, technique. Voilà.
Alors j'en parlerai de la technique, parce que dans la technique, il peut y avoir des pannes. Voilà, mais spécifiquement pour la Tower Tafel, il faut savoir que toutes les activités proposées sont toujours co-construites avec des aidants proches et professionnels, et puis qu'elles s'appuient en fait sur des études qui ont été réalisées, qui montrent en fait qu'on ne peut pas proposer n'importe quelle activité en fonction de là où en est la maladie. Voilà, donc parfois dans la maladie très sévère, on va pouvoir s'en tenir à des jeux autour de la sensorialité, autour des souvenirs, etc.
Ça veut dire qu'il faut une formation pour l'utiliser.
On propose une formation effectivement pour l'utiliser et pour en montrer toute la richesse. Voilà, parce que quand on a un outil comme ça numérique, eh bien on n'a pas forcément en premier abord l'idée qu'on va pouvoir l'utiliser au sol, etc. Donc on a montré à travers les études un certain nombre d'effets pour les personnes qui vivent avec la maladie, donc des effets parce que ça a des effets sur la sensorialité, ça a des effets sur le cognitif, sur la communication, des effets également sur d'un point de vue moteur, et notamment si vous faites des jeux au sol, vous pouvez accompagner les personnes qui parfois ont chuté et qui ont peur en fait de reprendre la marche, et bien grâce à ces jeux très cadrés, évidemment, vous pouvez en fait accompagner les personnes à reprendre la marche. Vous avez des effets également sur les proches aidants. Ce n'est pas toujours facile, on en a parlé, pour les aidants. Et ce n'est pas toujours facile, notamment pour les petits-enfants, parfois d'amener les petits-enfants en fait, voir eh bien, leur grand-père, leur grand-mère, etc., qui est atteint de la maladie. Et donc, grâce à cette médiation, on va pouvoir recouvrer en fait, certains liens. Voilà. Et puis, c'est très facilitant également pour les professionnels. Alors, on l'a vu également sur les jeunes professionnels qui parfois arrivent en fait dans les établissements, ne savent pas encore tout à fait comment lier des relations avec les personnes qui ont des maladies. Et bien, grâce à cette médiation, en fait, ça les accompagne et ça leur permet aussi de changer leur représentation sociale. Et notamment, une des études avait montré que parfois, les soignants eux-mêmes, en fait, voient une personne qui ne participe plus à aucune activité et se dit qu'elle n'a plus du tout de capacité. En fait, comme des jeux de lettres que vous avez pu voir, en fait, des personnes qui sont même entrées dans la maladie, en fait, savent toujours lire. Et donc, ça change soudainement la représentation en fait, que même certains soignants peuvent avoir, ou professionnels, peuvent avoir des personnes qui les accompagnent. Donc, pour aller très vite, les objets techniques numériques, aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Ils proposent de plus en plus de choses, mais évidemment, il ne s'agit pas d'avoir un regard technosolutionniste, comme on dit. Ce n'est pas l'outil. L'outil doit être intéressant, mais l'outil seul, en fait, n'apporte pas l'intérêt. Donc il y a un certain nombre de facteurs à prendre en compte. Donc déjà, le premier facteur, il faut que l'outil puisse permettre aux personnes de s'engager avec un certain plaisir dans l'activité, mais s'engager aussi en fonction de là où elle en est et en fonction, en fait, de l'évolution également de sa maladie. Ça a été répété plusieurs fois. Un autre facteur, c'est que nous sommes des êtres de relation et que ces médiations, ces objets, doivent être des médiations et doivent permettre justement de redynamiser parfois tout le tissu relationnel autour des personnes. Donc on l'a dit, parfois dans les résidences, c'est entre les résidents. Ça va permettre aussi de retisser des liens entre les soignants ou les professionnels et les résidents, mais aussi avec les familles, les proches, mais aussi parfois en proposant des activités intergénérationnelles, comme on les appelle aujourd'hui, en faisant venir la crèche d'à côté, l'école d'à côté, le centre aéré d'à côté, etc. Et pouvoir comme ça retisser des liens, redynamiser en fait la dynamique sociale qui existe autour de la personne. Ce sont des objets techniques. On l'a dit, on l'a vu tout à l'heure avec la panne, il faut faire attention à un certain nombre de facteurs. Pas la Tower Tafel, parce que la Tower Tafel, une fois qu'elle est installée, vous n'avez qu'une télécommande à utiliser, mais d'autres objets techniques doivent être branchés. Donc il faut faire attention à bien brancher les objets, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de fil qui traîne, etc. Donc comme ça, plein de facteurs auxquels il faut être attentif. Ça paraît bête, mais parfois on l'installe dans une salle qui est très loin en fait, du lieu de vie de la personne. Et donc parfois quitter son lieu de vie pour aller jusqu'à la salle où il y a l'animation, en fait, bah, ça peut provoquer un stress, ça peut provoquer des angoisses, etc.
Et un frein, en tout cas, à l'utilisation.
Exactement. Donc, il faut faire attention à tous ces facteurs pour que, véritablement, les effets soient présents. On l'a dit, pour que ce soit une intervention non médicamenteuse, il faut prendre en compte la singularité de la personne. Il faut que la médiation puisse, l'objet que vous utilisiez, puisse suivre la personne, comme je disais, là où elle en est, là aussi où elle en est dans la rencontre avec le professionnel, et puis que chacun puisse prendre un certain plaisir également. Et enfin, et je trouve que c'est, vous l'avez vu avec la Tovertafel, la plupart en fait des solutions ou des petits jeux que vous avez vus, c'est aussi une manière qu'ont eu les professionnels de s'approprier en fait les jeux. C'est-à-dire que c'est très intéressant que les outils techniques proposent comme ça des petits scénarios ou des activités, mais ce qui va être encore plus intéressant, c'est que ces activités, je puisse me l'approprier en tant que professionnel ou en tant que proche et en faire quelque chose peut-être de nouveau en fait. Donc il faut que les scénarios des objets soient assez ouverts. C'est pour ça que pour terminer, en fait, dans le choix des outils, il faut souvent regarder si l'objet il est suffisamment adapté, évidemment, aux personnes auxquelles vous allez proposer cet objet, mais il faut également que cet objet soit plastique, comme on dit, au sens où il puisse suivre en fait, l'évolution des personnes, toute la dynamique sociale qu'on va mettre autour. Et puis il faut qu'il soit ouvert, comme je le disais pour terminer, puisqu'il faut que cet objet, en fait, vous puissiez vous l'approprier, en faire quelque chose en fonction de la personne qui est en face de vous. Voilà, je termine là pour aujourd'hui.
Merci beaucoup. Quand on s'est vu la dernière fois, vous nous aviez dit que 1500 établissements l'utilisaient aujourd'hui, c'est plutôt 2000.
Là, on approche de 2000 ouais, aujourd'hui, avec, j'ai oublié de le dire, excusez-moi, j'en profite, des nouvelles fonctionnalités qui vont permettre davantage d'engager, puisque maintenant, vous pouvez mettre des photos ou des images propres aux personnes, en fait. Donc, par exemple, un jeu de puzzle, ce que va voir la personne au fur et à mesure de son puzzle qui s'ouvre, bah, c'est peut-être soit la photo d'un proche, soit sur le thème qui est mis en place dans la résidence.
Encore plus stimulant. Et on a vu tous les sourires des participants à ces jeux, ce qui est quand même un gage de réussite. Merci beaucoup pour cette présentation. S'il y a des questions, alors pour la partie...
Il y a une question sur le prix.
Oui, le prix.
Oui, bien entendu. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est plutôt pour les établissements. C'est un coût certain, mais il y a des aides hein, pour obtenir. Ça part de 12 000 euros, on va dire.
12 000 euros.
Voilà.
Avec des aides.
Une licence de 2 ans. Et puis ensuite, soit vous renouvelez la licence chaque année, soit vous gardez en fait 10 jeux voilà, à vie, ou bien maintenant il existe des licences à vie qui demandent un coût plus important, mais ensuite vous êtes tranquille au niveau des renouvellements de licences.
Voilà, ce sont des investissements pour les établissements. Oui, madame. Le code postal de Saint-Étienne.
42 100.
Voilà, comme ça vous avez l'adresse. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé cet outil.
Une seule table et plusieurs logiciels. C'est alors, une seule table et
en
plusieurs
fait, la table, elle est indépendante. C'est un objet que vous avez au plafond, pardon, et qui projette. Donc ensuite, en dessous, vous mettez une table qui est plutôt adaptée, donc de couleur claire pour que les projections fonctionnent. Ou vous ne mettez pas de table si vous souhaitez jouer au sol. Si votre sol là aussi est adapté, si ce genre de sol pourrait aller, mais d'autres sols plus sombres avec des dessins, vous allez troubler les personnes.
Ou une petite piscine.
Exactement. Vous pouvez mettre un petit bac blanc, par exemple, avec un peu d'eau. Et on a vu un établissement, il n'y a pas très longtemps, quand il faisait très chaud, projeter un jeu avec des poissons. Et puis les personnes avaient les pieds dans l'eau et c'était plutôt agréable. Voilà.
Alors il y a des aides pour investir dans ce genre de matériel.
Public et privé. Non, il n'y a pas de souci.
Effectivement, le coût est toujours un frein. Merci beaucoup.
Mais c'est pour ça aussi qu'il faut trouver et montrer les effets en fait que ça. Hein, c'est pas un gadget en fait. Hein. Voilà.
Merci beaucoup de ces précisions et de la démonstration que beaucoup d'entre vous ont pu voir à côté.